m'entend là? Je suis pas trop fort? Ça va? Bon, c'est bien. Merci de votre accueil. Et comme Laurent l'a dit, pour moi, c'est une joie d'être avec vous et de pouvoir vous servir hier et puis ce matin au travers de du partage de la parole de Dieu. Et quand j'étais là pour la retraite, le week-end d'église, j'ai commencé à parler d'un thème qui est, je pense, un thème auquel l'Église a besoin de revenir. Ludovic nous a donné un témoignage de quelqu'un qui est venu à Jésus-Christ et Jésus est allé le chercher, là où il était, n'est-ce pas? Là où tu étais, il est allé te chercher. Et hier soir, avec Yves et Fanchon, on a pris du temps, on a pris un peu de temps pour prier ensemble. On priait pour hier et puis on priait pour ce matin aussi. Et pendant cette prière, c'est comme j'avais une image dans la tête d'une tasse de thé qui était remplie d'eau. Et c'est comme si Dieu me disait, mon abondance, ce n'est pas de garder la tasse presque pleine. Mon abondance, c'est de continuer à verser dans la tasse pour qu'elle déborde autour. Et c'est ce que Dieu veut faire au travers de vous, Église de Chambéry. Il veut déverser en vous que ça déborde autour de vous. Chacun de vous, vous avez des personnes qui vous entourent, qui sont des personnes qui vous ont regardé vivre pendant des années, qui connaissent votre témoignage. Vous avez déjà parlé avec eux. Mais ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut verser dans cette tasse, que ça déborde et que le Saint-Esprit touche ces personnes qui sont autour de vous. Préparez-vous à ce que ces personnes-là viennent à Jésus-Christ. Vivez comme si elles vont vivre à Jésus. Mais ça veut dire qu'il faut aller, il faut leur parler, il faut continuer à prier pour eux, intercéder pour eux. Dieu veut faire beaucoup plus. Ce que vous vivez avec Ludovic, il veut le vivre 50 fois avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les vieux, tout âge de la vie qui vient à Jésus et qui découvre Jésus pour la première fois. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut déborder de vous, Église. C'est pour ça que Dieu, dans son abondance, veut déverser cette eau, cet esprit, et que ça n'arrête pas de couler, pour que ça rayonne autour de vous, et que les gens autour de vous viennent à Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Je suis passionné. Oui, je suis passionné. Je suis passionné pour l'Église et pour ce que Dieu veut faire au travers de l'Église. Et vous allez entendre un message un peu différent que d'habitude. Je ne sais pas comment on appelle ce message. On dirait peut-être c'est un message, une narration, une narrative de message. Je ne sais pas comment on appellerait ça. Mais il y a dans la Bible une histoire. Qui a écrit l'évangile de Marc? Quel disciple a écrit l'évangile de Marc? Et derrière cette histoire qui est autour de l'évangile de Marc, il y a une histoire de rédemption. Il y a une histoire de transformation d'un jeune homme qui n'a pas bien commencé, mais qui a terminé la course fidèle à Jésus. Quand j'avais 20, 22 ans, je ne dirais pas combien d'années ça fait, Cette histoire de Marc ou Jean-Marc m'a donné de l'espoir, que même pour moi, il y avait de l'espoir que je peux servir Dieu. Il peut se servir de moi. C'est dans Marc 14 que commence l'histoire de Marc ou Jean-Marc. Marc 14, 51 et 52. Donc, ils sont au jardin de Gethsémané, lorsque Jésus va être pris par les gardes du Sanhédrin, arrêté. Et voilà quelque chose qui se passe juste à ce moment-là. C'est le seul évangile où cette petite anecdote se trouve d'ailleurs. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Ça, c'est dans la Bible. Plusieurs fois dans les Actes des Apôtres, il est question d'un certain Jean qui est aussi appelé Marc. Et on peut se poser la question, qui c'est ce jeune homme? Ce jeune homme, en fait, il vient d'une famille où sa mère était disciple de Jésus-Christ. Sa mère était Marie, celle qui avait la grande maison à Jérusalem. Un soir, ils sont là dans la maison, en train de prier, de supplier Dieu, parce que Pierre l'apôtre est en prison. Donc toute l'église, Jérusalem, elle est là, dans la maison de Marie. Imaginez la taille de la maison. Ils sont là en train de prier. Et au milieu de la prière, quelque chose se passe. Si on lit dans les Actes, au chapitre 12, des versets 11 à 13, on voit Pierre qui nous raconte l'histoire de son point de vue. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit, « Ah, maintenant je le vois bien. C'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le mal qu'il voulait faire, que voulait faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, aussi appelée Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa à la porte. Une jeune servante, Rhode, s'approcha et demandait qui il était. Imaginez, c'est Jean-Marc ça que c'est arrivé. Il a vu l'apôtre Pierre raconter l'histoire. Écoutez, j'étais endormi dans la prison. Un ange vient me taper l'épaule et me dit, lève-toi, viens. Et je vois toutes les portes de la prison s'ouvrir devant moi. Il a dit, j'arrive ici et vous étiez en train de prier pour moi. Imaginez ce que ce miracle a fait à Marc. Tout d'un coup, ce que Dieu peut faire, ah, il peut même aller dans une prison, envoyer un ange et ouvrir toutes les portes pour libérer un homme qui était mis en prison. Imaginez ce que ça a veillé dans ce jeune Marc, son imagination de ce que Dieu peut faire. Et je vous dirai, avec ma femme, nous sommes missionnaires depuis 40 ans. Nous avons servi le Seigneur dans beaucoup de pays. Nous avons fait des zones de guerre. J'en fais encore une, j'ai travaillé en Ukraine aussi. Et nous avons vu Dieu faire des choses incroyables. Mais vous savez où là ça a commencé pour moi? C'est quand j'étais jeune, de voir ce que Dieu pouvait faire et de réaliser qu'il n'a pas fait ça que dans le passé, il veut continuer à le faire aujourd'hui. Les miracles, ce n'est pas pour le passé. On l'a vu avec Ludovic. Excusez-moi. On l'a vu avec Ludovic. Il veut continuer à faire des miracles. Et à Kaboul, un soir, on a fait 9 ans en Afghanistan, c'était en 2009, et ce soir-là, c'était un lundi soir, nous étions en train de prier avec notre équipe de missionnaires. Une semaine avant, on a 2 frères, 2 missionnaires, qui arrivaient du Canada avec des Bibles en pachto et en dari. Ce sont les 2 langues les 2 langues les plus importantes pour l'Afghanistan. Et ils arrivaient avec des cartons de livres interdits. Et à la douane, à Kaboul, à l'aéroport, ils ont été pris par la police secrète. Ils sont mis en prison. Et on a prié pour eux. On a intercédé pour eux. On était inquiets pour eux. Parce que, vous savez, la prison, ce n'est pas comme la maison d'arrêt ici. Hein. Ils étaient prisonniers au milieu de tous les terroristes talibans qui leur disaient tous les jours, tous les moments, on va vous tuer. On va vous tuer. Et ce lundi soir, on était en train de prier. Et on s'est arrêté de prier 5 minutes plus tard. À la porte de notre enclos, là où se trouvait notre maison, ça frappe et notre garde va voir qui c'est. Et nos 2 frères rentrent dans la pièce où nous étions. Ah, vous ne pouvez pas imaginer la joie. Mais comment tu as fait ça, Dieu ? Eh bien, pour eux, c'était un général de l'armée afghane, de la police afghane, qui est entré dans leur cachot dans la prison. Il a dit, je vous ouvre la porte, sortez, vous avez 24 heures pour sortir du pays. Un miracle. Dieu continue à faire des miracles, frères et sœurs. Il va en faire encore plus. Mais enlevez les limites que vous avez mises dans votre intelligence sur ce que Dieu peut faire. Arrêtez de limiter Dieu, parce qu'après tout, il est souverain. Il est tout-puissant. Et il fera tout ce qu'il voudra. Mais revenons à notre Jean-Marc. Dans ce même chapitre 12 de Actes, après que Pierre ait été libéré, on voit dans Actes 12, 25, Barnabas et Saul, donc l'apôtre Paul, qui étaient en visite à Jérusalem, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent en amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Et on voit, Paul voyait le potentiel de ce jeune. Je vous assure, l'histoire du jeune homme qui a fui nu dans la nuit, je pense que ça l'a pourchassé toute sa vie. Parce que les histoires comme ça, on rigole ensemble, mais ça faisait partie du processus de connaître Dieu, d'approfondir sa foi pour Jean-Marc. Mais là, maintenant, l'apôtre Paul voit quelqu'un qui peut être un disciple, quelqu'un qui peut être formé, préparé pour servir. Et il l'amène, lui, Barnabas, l'amène à Antioche, là où la première église internationale est en train d'être implantée. Parce que c'est l'église où il y a des juifs, il y a des grecs qui se convertissent. Et Paul demande à Marc, Jean-Marc, de partir avec eux. Et vous savez, Jean-Marc a dit « Oui, je pars ». Êtes-vous prêt à répondre à Dieu comme ça ? Oui, je suis prêt à partir. Oui, je suis prêt à te suivre. Oui, je suis prêt à aller plus loin, à prendre plus de risques. Parce que là, c'était un risque encore plus grand. Il partait loin de la maison, il partait loin de sa culture juive pour habiter dans une ville qui n'était pas juive, où il y avait des Grecs et des Juifs. Il prenait des risques. Mais Marc a dit oui. Ensuite, on arrive au chapitre 13 et c'est le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. La première fois que Paul et Barnabas sont envoyés par l'église d'Antioche pour aller évangéliser en Asie mineure, c'est-à-dire dans toutes ces églises qui sont dans toutes ces villes. Il n'y a pas encore d'église, excusez-moi. Dans toutes ces villes qui sont dans l'actuelle Turquie. Et au verset 4, acte 13, 4, il dit « Paul et Barnabas, envoyés en mission par l'Esprit-Saint, mais aussi il est dit qu'ils partirent avec Jean-Marc. » Jean-Marc dit « oui » encore une fois. La vie de disciple de Jésus-Christ, elle est faite de ces « oui » que l'on donne à des moments précis dans notre vie où Dieu nous appelle, dit « tu es prêt à me suivre là ?»« Oui, Seigneur. » Il va y avoir des moments différents dans votre vie où il va vous demander, où l'enjeu va devenir encore plus sérieux, encore plus de risques, peut-être encore plus de dangers. Êtes-vous prêt? Mais l'histoire de Jean-Marc continue. Parce que dans le chapitre 13, au verset 13, on voit la suite de ce qui se passe. En plein milieu du voyage d'évangélisation, Jean-Marc a peur et abandonne Paul et Barnabas et rentre à la maison. Alors, l'impact de ce qu'il a fait, on peut le mesurer pendant le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul, où justement, Barnabas veut amener Jean-Marc avec lui. Barnabas voit le potentiel de ce jeune homme. Pour Paul, il nous a abandonnés pendant le premier voyage, ce n'est pas la peine de l'inviter. Mais Barnabas... Alors, Barnabas et Paul ont payé un prix pour celle-là. Vous savez qu'il y a eu un désaccord entre Paul et Barnabas qui était tellement fort qu'ils se sont décidés de se séparer. Donc, Paul est parti avec Silas, Barnabas a parti avec Jean-Marc. Plus tard, ils se séparent. On peut se dire, ben, le petit Jean-Marc, là, il est fini, là. Hein. Ben, deuxième fois, hein. Rentre à la maison, défaite cuisante. Il y a une chose que j'ai découvert avec Dieu. Dieu est celui qui donne les deuxièmes chances, les troisièmes chances, les quatrièmes chances. Dieu n'abandonne pas avec nous. Quand je regarde ma vie, je vois la preuve que Dieu ne nous abandonne pas. Et j'ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes que j'ai eu le privilège de former, qui étaient des personnes que j'ai mentorées, de voir la patience de Dieu avec eux, comme il a eu avec moi. Et en plein milieu du voyage de Paul, où il se décide de partir et de séparer de Barnabas, même là, Paul, il ne peut pas s'en empêcher. Il arrive à Derbe et qu'est-ce qu'il rencontre ? Un autre jeune qui s'appelle Timothée. Et il va inviter Timothée à partir avec lui. Et vous, l'histoire, vous la connaissez. Timothée devient le disciple, l'apprenti de l'apôtre Paul, et deviendra lui-même pasteur, deviendra lui-même quelqu'un qui avait une fonction apostolique dans l'Église. Mais, et Jean-Marc alors ? Qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Marc ? Eh bien, il est rentré à Jérusalem, sans doute retourné chez sa mère, mais il y avait Barnabas qui était là, Barnabas qui n'a pas abandonné sur ce jeune homme. Et puis il y a un autre homme, un autre apôtre qui a vu le potentiel chez Jean-Marc, l'apôtre Pierre, qui a vu le potentiel de ce gars et a dit, ce gars, je vais l'inviter à venir avec moi, passer du temps avec moi pour qu'il mûrisse dans sa foi. Alors, nous n'avons pas toute l'histoire de Jean-Marc dans le Nouveau Testament, mais nous avons un peu le déroulé de l'histoire au travers de ces différents passages que j'ai cités ce matin, que j'ai lus ce matin. Et nous avons aussi des citations de l'apôtre Paul sur ce Jean-Marc, qui est la dernière fois que l'apôtre Paul et Jean-Marc étaient ensemble, il dit, celui-là, j'en veux pas. Il nous a abandonnés, j'en veux pas. Moi, je pars avec quelqu'un d'autre qui sera fidèle. Lui, il n'a pas été fidèle. Mais il y a eu Pierre qui s'est mis à côté de Jean-Marc. La tradition, l'histoire de l'Église nous enseigne le rôle de Pierre dans la vie de Marc. Et aussi, on voit le résultat. Qui est-ce qui a écrit l'évangile de Marc ? C'est le récit de la vie de Pierre, le disciple. C'est pour ça que c'est le seul évangile où il y a cette petite anecdote concernant Marc, parce que c'était son histoire à lui. On voit quelques versets qui nous encouragent. Par exemple, dans Philémon 24, Paul parle de Marc. De même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Paul appelle Marc un collaborateur. Mais qu'est-ce qui a changé avec Marc ? Tout d'un coup, Paul l'appelle son collaborateur. Marc avait grandi, avait mûri, avait été fidèle à Dieu. Et l'apôtre Paul, il est devenu un collaborateur avec l'apôtre Paul. Celui qui avait dit « j'en veux pas de lui dans le prochain voyage » est devenu son collaborateur plus tard. Mais il a fallu que Marc ait un Barnabas, il a fallu qu'il ait un Pierre pour l'accompagner. Alors, pourquoi je vous parle comme ça ? C'est parce que dans l'Église, nous avons besoin des Pierres, nous avons besoin des Barnabas, parce qu'il y a des Jean-Marc qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin qu'on fasse d'eux des disciples, qui ont besoin d'apprendre la maturité spirituelle, qui ont besoin d'apprendre à suivre, à dire oui, quoi qu'on leur demande. Mais ils ont besoin d'avoir des hommes et des femmes spirituels qui vont investir du temps avec eux. Ils vont dire, toi, tu vaux le coup. Toi, je vais investir. Viens, on va cheminer ensemble. On s'accroche les bras ensemble et on marche et on apprend à servir Jésus ensemble. Il y en a parmi vous, vous êtes des Barnabas, vous êtes des Pierre. Vous allez dire, non, je ne suis pas un apôtre, moi, Philippe. Non, ce sont des figures de l'encouragement dans l'Église. Vous savez, Barnabas, son vrai nom, ce n'est pas Barnabas, hein, son fils, son nom, c'est fils de Joseph. Vous savez comment il a eu le nom Barnabas ? C'est un sobriquet, un surnom que lui a donné l'Église de Jérusalem. Et Barnabas veut dire fils de l'encouragement, fils de consolation. Celui qui n'abandonne pas sur les autres. Et Dieu, il continue à être comme ça avec, vous allez dire, c'est que les jeunes, Philippe, ça ? Non. Il y a aussi des personnes d'un certain âge qui arrivent à Jésus-Christ qui ont aussi besoin d'avoir des mentors, d'avoir des personnes qui vont les accompagner spirituellement. Qui c'est qui va le faire, ça ? L'Église de Jésus-Christ, c'est l'endroit où on fait des disciples. Et un disciple, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est arrivé à pleinement suivre Jésus-Christ et qui continue à être un apprenant à vie. Qu'est-ce qui arrive à beaucoup de chrétiens dans l'Église ? On s'assoit sur ses acquis. On s'installe sur ce qu'on a appris et on se dit, ça y est, je suis arrivé. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit, frères et sœurs. Le chemin, il ne s'arrête pas. L'apprentissage ne s'arrête jamais. En fait, l'apprentissage, nous allons le faire pendant toute l'éternité. Parce qu'une fois que passé cette vie et passé dans l'éternité, l'apprentissage va continuer pour toute l'éternité à apprendre qui est Dieu, à apprendre quel est ce cosmos qu'il a créé autour de nous et qu'est-ce qu'il va en faire. Ça ne s'arrête pas ici, les amis. Ça, c'est un petit passage sur la terre. Dieu nous prépare pour vivre l'éternité avec lui. Mais il a encore beaucoup de personnes dans ce monde qui veulent appeler à venir avec lui. Et comment est-ce que ces personnes sont appelées ? C'est au travers de vous, frères et sœurs, au travers de nous. Nous partageons l'Évangile avec les autres. Et nous sommes des faiseurs de disciples. Nous investissons avec des personnes qui veulent mûrir dans leur foi, qui veulent apprendre. On prend du temps pour eux. On prend du temps pour s'asseoir. Trois personnes à la fois. Et on apprend ensemble. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait. Hein? Comment est-ce que Jésus a fait ? Il a fait du 1 à 1, il a fait du 1 sur 3. Pierre, Jacques et Jean. Il investit dans des petits groupes. Et c'est dans les petits groupes qu'on apprend, frères et sœurs. Parce que là, on peut être vraiment ouvert les uns avec les autres, être transparent les uns avec les autres. Mais l'Église a besoin de pères et de mères spirituels de tout âge pour commencer à aider ces Jean-Marc, ces hommes et ces femmes au milieu de nous qui ont besoin de découvrir des personnes qui vont les encourager à aller plus loin. Chaque personne dans l'Église a un rôle. Nous sommes tous appelés ensemble à faire l'œuvre de l'Église. Ce n'est pas l'œuvre d'un groupe de responsables, c'est l'œuvre de toute l'Église. Donc, je vous invite, frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts à dire oui ? Là où vous êtes avec Dieu aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à dire oui ? Je suis prêt à aider les autres, à être quelqu'un qui peut aider les autres à apprendre. L'apôtre Jean, et je termine avec ça, l'apôtre Jean nous parle de trois groupes de personnes. Il nous parle d'abord dans le verset 12 et 13, il nous parle des pères et des mères, Il nous parle des enfants, il nous parle des jeunes gens. Et il parle de cela pour nous dire un petit peu comment est-ce que la vie spirituelle évolue. Quand nous devenons des disciples, quand nous revenons à Christ la première fois, nous arrivons comme des bébés. Nous devenons des enfants, ensuite nous devenons des jeunes gens, ensuite nous mûrissons et éventuellement nous devenons des pères et des mères spirituelles. Vous allez dire, mais Philippe, la mère spirituelle, elle n'est pas dans le texte. Lisez Paul alors. Qu'est-ce qu'il dit ? Que les femmes plus âgées prennent les jeunes femmes pour les aider. L'Église est faite de relations spirituelles. Ce n'est pas seulement de parler du foot ou de parler de ce qui se passe dans la politique. C'est de relations spirituelles où on fait l'œuvre du ministère ensemble. Donc, regardez autour de vous, frères et sœurs, en vous posant la question, qui est mon Jean-Marc ? Un gars ou une fille ? Un homme ou une femme ? Ou alors, vous regardez, vous dites, qui est mon Barnabas ? Qui est mon Pierre, celui qui va m'aider à grandir ? Mais l'Église est faite de personnes à tous les niveaux d'apprentissage spirituel. Pourquoi ? Parce que nous sommes là pour apprendre ensemble. Les pères et les mères spirituels sont là pour accompagner les jeunes, pour qu'ils découvrent leur foi et qu'ils prennent leurs ailes et qu'ils volent et qu'eux-mêmes deviennent des pères et des mères spirituels. On ne reste pas des enfants. Je ne suis pas un enfant. Il y a un moment, j'étais un petit bébé comme ça. Encore plus petit. On ne reste pas des enfants. Dieu fait pousser les gens. On devient des pères et des mères spirituels pour devenir des exemples pour les autres, des personnes qui vont accompagner. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'aimerais que ça ne débouche pas simplement sur « Ah ouais, c'est un message de Philippe ». Non. Que vous vous posez la question sur votre manière de vivre, votre foi, de votre manière de vivre votre vie de disciple de Jésus-Christ. Parce que Dieu a de beaucoup plus grandes attentes de vous que vous n'avez de vous-même. Amen.